تغير عنوان الدار، انتقل صورتي من مكانها، الطاولة مطوية خلف الباب وكرسي أبي أيضا.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission Chantier de la mémoire. Ce soir, nous sommes avec Salah Alhamdani, poète irakien qui vit depuis 35 ans en France. Et il a quitté l'Irak pour des raisons qu'on vous expliquera tout à l'heure. Merci Salah pour ton extrait de poésie. J'espère qu'on en aura d'autres pendant l'émission. Et bienvenue dans ce chantier de la mémoire. Je rappelle que vous avez vécu en Irak jusqu'à l'âge de 23 ans. Vous étiez ouvrier dès l'âge de 7 ans. Vous avez travaillé dans, durant toute votre enfance chez différents artisans. Après, vous êtes engagé dès l'âge de 17 ans dans l'armée irakienne, bien sûr, pour subvenir aux besoins de votre famille. Excusez-moi de vous ramener à son passé, c'est les chantiers de la mémoire, c'est ainsi. Je voudrais quand même vous demander un peu de revenir sur cette période, et encore désolé de vous ramener aussi loin.
En fait, là, tu me jettes très très loin dans la mémoire.
Oui, bien sûr.
Et dans les passés, qui, bien entendu, je n'ai pas envie de fuir mon passé, mais c'est vrai que chaque fois que cette question vient, ça me trouble un peu, parce que ça me ramène à une période extrêmement douloureuse, quoi. Par quoi commencer, au fait? Je suis né dans une famille modeste, on peut dire une famille très pauvre. Émigrés du sud de l'Irak, des paysans sont venus à Bagdad, la capitale, pour vivre. Et je me suis trouvé dans une famille nombreux, ça c'est comme d'habitude, dans les familles du monde arabe. Et je me engagé dans la vie, on vivait tous dans une pièce à Bagdad, une pièce très très étroite. On était 7, 8, 9, on était vraiment entassés. Et je me rappelle très bien que pour aider la famille, amener à manger, mon père, certainement le pauvre, qui est décédé aujourd'hui, bien entendu, il me disait, si tu ne ramènes pas 10 centimes, ne reviens pas. Imagine-toi. Ne rentre pas à la maison. Moi, je ne sais pas quoi faire quand tu es petit. Et on te dit, c'est des menaces à la fois. C'est aujourd'hui que j'ai saisi les choses. À l'époque, c'était comme si c'était quelque chose de naturel à vivre. D'accord ?
Je suis désolé de te ramener brutalement.
Oui, oui, c'est...
Mais on disait quand même, bon, on parlait à l'époque du régime de Saddam Hussein, donc l'accès aux droits, l'éducation, la santé, tout ça. Donc
enfin, à l'époque, c'est... Saddam n'était pas. Saddam, certainement, était un des voyous avant qu'il devienne dictateur. Mais que là, moi, j'ai parlé de mon enfance pour arriver justement Oui, la mémoire, c'est ça aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas sursauter sur les lignes. La mémoire, c'est une file continue, jamais stoppée. Et que c'est pour ça que si je retourne vers le passé où ta question m'a envoyé très très loin, je suis obligé de commencer par ma petite famille. Et pour comprendre l'engagement d'un homme, je pense qu'il faut y aller vers les sources.
Tout à fait, oui.
Et les sources, c'était ça. C'était tout petit enfant avec une djellaba, t'es dans le marché pour trouver de l'argent. Je suis pas devenu voleur, j'ai tué personne. Je veux dire que ça, tout ça, c'est une chose intéressante. Et pourquoi s'engager après?
Oui, mais les sources d'engagement remontent à très loin.
Ça remonte peut-être à ce moment-là, quelque part. C'est-à-dire que cette conscience est venue, à mon avis, ce devoir d'être pieds nus, où tu n'as rien, où tu passes ton temps dans les rues de Bagdad, dans les quartiers de Bagdad, où tu dois assumer déjà en tant qu'adulte. C'est terrible. Tu es adulte. On te dit, tu es responsable, tu amènes de l'argent. Et tu es petit. Donc, ça a commencé comme ça. L'école... Il faut revenir à l'école. Moi, c'est impossible d'aller à l'école, vu qu'il faut que je travaille.
Tout en travaillant, bien sûr.
Voilà, donc on travaille, pas d'école. À 11 ans, l'école du soir, par insistance de ma part à l'époque, où j'ai hurlé, j'ai pleuré, j'ai dit, je veux aller à l'école. C'est pas mes parents qui m'ont envoyé à l'école. J'ai exigé d'aller à l'école. Donc, c'était aussi, ça fait partie de ma vie, bien entendu. L'école du soir, où tu te trouves à l'âge de 11 ans, Là, on saute un peu, mais c'est pas grave. À l'âge de 11 ans, avec des adultes, moustachus, Irak, moustachus, des hommes, hein, des bédouins, des soldats, qui prenaient à l'époque lire et écrire. Et toi, tu es avec eux à 11 ans pour apprendre lire et écrire. Ou tu n'apprends rien. L'école du soir, tu n'apprends absolument rien. On t'apprend comment tu fais la boxe. Et on t'utilise en tant qu'enfant au milieu des adultes. C'est ça le monde où j'ai vécu, moi. Le monde arabe, en général, ça se ressemble un peu partout. Où l'enfant, il est utilisé pour des fins, un amusement, il va chercher de l'eau, on te tire les oreilles. Quand on fait une blague, c'est toi qui, dans les blagues, tu te trouves dans des histoires où tu n'es pour rien. Tu vois, il y a des chapitres qu'on écrit pour toi.
Non, mais c'est fabuleux ce que vous racontez là, parce que vous rendez un super hommage à cette émission qui s'appelle Chantier de la mémoire. Là, on voit l'illustration.
Voilà. Donc, si tu veux, après, on a un professeur, je me rappelle, professeur, c'est un terme pour moi presque grossier. J'ai dit que c'était un professeur. C'est un salopard. Je veux dire, à la fois, il t'apprenait le Coran. On ne comprend rien. D'ailleurs, lui-même ne comprend rien. Il t'apprend aussi comment dessiner, l'alphabet. Et également, surtout, il t'apprend comment boxer. Et qui, au fait, on utilise comme mannequin pour boxer, c'est les enfants dans les classes d'école du soir. J'étais un mannequin qui me tapait dans le ventre, sur le visage. Et tout le monde rigolait. Moi, tu peux rien faire. On te tabasse de toute façon. Tu es là pour travailler et tu fermes ta gueule. C'est les adultes, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on a des soucis aujourd'hui dans notre propre culture, malheureusement. Si on cherche mon enfance à moi, on peut trouver des millions comme moi. Et partout. Il n'y a pas qu'en Irak. Il y a partout. Pareil. Là où il y a le monde arabe existe. Et donc, comme ça j'ai commencé. Donc, j'ai rien appris. Je n'ai pas un certificat d'études, moi. Rien. Absolument pas de certificat. Devenir écrivain sans certificat d'études, ça aussi, ça fait partie de ma mémoire. Donc, s'engager à l'armée, oui, à 16 ans, 17 ans, que faire à Bagdad? Rien, moi, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Ben, il faut vivre. L'idée d'aller chercher de l'argent sans tuer, sans voler, sans casser, sans abîmer personne, c'est des choses, jusqu'à aujourd'hui, essentielles dans mon engagement. Donc, aller à l'armée irakienne à l'époque. S'engager, parce que comme ça, au moins, tu trouves une raison pour vivre, quoi. T'as un salaire, et tu vois ta pauvre mère. Ma mère est beaucoup plus importante que mon père. C'est elle qui nourrissait la famille par des petites... Elle demandait parfois aux voisins, tu vois, la pauvreté. C'est devant moi, tout le temps. On était toujours dans une seule pièce. Hein. Donc, aller à l'armée, s'engager pour ramener de l'argent. Et je me trouvais dans le nord de l'Irak à l'époque, Kurdistan aujourd'hui, où il y a la guerre contre les Kurdes.
Ce qui est le cas souvent de l'armée dans tout le monde arabe, et on a plein de personnes du monde rural notamment, ou urbain, qui n'ont pas de moyens, et c'est un peu la sécurité pour eux, quoi.
Oui, je me trouve dans une armée arabe, une armée irakienne, où en général, c'est vrai, pas de reconnaissance des minorités dans le monde arabe. Donc à partir de là, à l'époque, je ne savais pas. J'étais engagé pour vivre, moi. C'est d'avoir un salaire pour donner à ma mère. Ce n'est pas tout au guerrier. Et où je me suis engagé, c'est dans un 1000 parachutistes, commando. Parce qu'il y a un enfant de pauvre dans
il n'y avait pas un enfant.
Je n'ai pas d'autre solution. Je sais sauter de la voiture, je sais monter très haut. Je veux dire, ça fait partie de ma vie. Ce n'est pas que l'armée qu'elle m'a pris.
Alors, parachutiste, commando, ce n'est pas un fantasme d'enfant que...
Oui, c'est quelque chose. Parce que quand tu es dans la misère, tu vis dans des quartiers de misère. Et les quartiers de misère, c'est... Hein? Si quelqu'un marche sur tes pieds et te dit rien, s'il te frappe pas, si je sais pas quoi, c'est toute une structure familiale, une structure des quartiers des pauvres où il y a la guerre tout le temps. Les pauvres t'amènent tout le temps à des choses comme ça, en fait. Il n'y a pas de calme, il n'y a pas de silence. On ne connaît pas le silence. Tu vois? Voilà, donc à l'armée, envoyé, une fois que j'ai fini mes stages, je suis devenu réellement parachutiste, etc. Ils m'ont envoyé à Kirkuk, dans le nord de l'Irak. À l'époque, on n'appelait pas Kurdistan.
On est dans la zone kurde. Ouais.
La zone kurde. Et là, du coup, c'est ici que j'ai découvert la politique. En fait. C'est ici que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui déconne. Parce que je voyais tous les jours, pratiquement, il amenait des petits bergers kurdes. Là, les parties basses, ils commençaient comme ça, hein, dans l'armée irakienne. Ils sont là, ils cherchent des Kurdes, des enfants, des jeunes bergers. On les tabasse. dans un camp militaire parce qu'on cherchait la résistance contre le pouvoir de Bagdad. Tout le temps, les Kurdes étaient révoltés contre le pouvoir central. Et moi, je m'impliquais dans une armée où je dois tabasser également les enfants. Ah, tu vois, c'est là.
Et,
là.
Et alors
Et alors, non. Alors non, parce que moi, j'ai vécu avec les Kurdes. Vu que c'était des minorités, ils se trouvaient à Bagdad, dans les quartiers des Mézères. Donc, c'était mes amis, mes copains. On rigolait ensemble, on va chez eux. Là, sa mère kurde, elle me nourrissait, elle me donnait des yaourts, je vais chercher des dattes. Ben, c'était mes copains. C'est comme si aujourd'hui, dans des quartiers en France, on veut foutre les Arabes dehors, et il y a des Français jeunes, ils disent non, mais c'est Mohamed, mon frère. J'ai vécu avec lui, ça va pas. Ils se révoltent. Ben, c'est la même chose.
Et donc là, vous rentrez forcément dans la désobéissance, l'opposition.
En fait, j'ai utilisé.
Et du surcroît de la militaire.
Oui, j'ai utilisé tout ce que j'ai pris en tant que commando contre mon camp militaire. C'est ça, exact. J'ai commencé à libérer d'abord les enfants kurdes. Je vais déchirer. J'ai des commandos, donc je n'ai pas peur. Je savais comment il faut faire. Et j'ai libéré des Kurdes jusqu'à le moment où ils m'ont capturé. C'est là où ça a commencé le désarroi d'un homme qui participait pour rien. Je n'avais pas un parti politique particulier. J'étais ni communiste, ni révolutionnaire, ni Che Guevara. Je veux dire, c'était un type, tout simplement. Simplement, il libère des enfants qu'il trouve c'est injuste. C'est pour ça que ça me ramène vers Camus aujourd'hui. Le juste de Camus. Hein? L'insupportable. C'est quoi, injuste? C'est quelqu'un qui réagit contre l'insupportable. Et bien là, donc, ils m'ont amené, torturé, disparu. Ma famille.
Vous avez passé 8 mois à peu près.
J'ai passé, donc, prisonnier, etc. Et jusqu'à le moment où. Bon, cette dame, je te dis, à l'époque, était voyou encore. On avait un général qui s'appelle Ahmad Hassan al-Bakr, qui était un général, réellement général de l'armée. Il était aussi salaud, mais il ne fusillait pas comme cette dame systématiquement, quoi. Il y avait une loi, quelque part, parce qu'il a pris. Après le 14 juillet en Irak, 58, il y avait la révolution qui a aboli les monarchies en Irak. Donc, il y avait des généraux qui. C'était des généraux, des salauds, mais ils ne sont pas comme cette dame. Ce n'est pas des dictateurs. Tout soldat qui compte l'armée, etc., ben, il est prisonnier, jugé et foutu dehors.
Donc après ces 8 mois en prison, mais vous n'étiez pas tranquille pour autant une fois libéré.
Mais ça, c'est la suite.
Oui, c'est la suite. Vous étiez.
C'est la suite. Ouais. Mais là, moi, ce qui est intéressant, c'est à ce moment-là où j'ai bousculé dans la poésie, au fait. C'est là
vous aviez appris l'arabe en prison.
À ce moment-là, donc moi, j'ai pas appris la langue arabe littéraire étudiée comme beaucoup de mes confrères, poètes, etc.
Mais dis donc, c'est mieux que les cours du soir. Hein.
Ah, parfois, chez les pauvres, on trouve de meilleurs vins. Hein, Et donc, alors, en prison, tous les soirs, il y avait un des prisonniers, et lui, il disait des textes. Moi, je trouve ça très beau. Alors, on applaudissait très, très discrètement, parce que les gardes ne veulent pas que de bruit. Et un jour, j'ai dit, je trouve ça très beau, et j'ai dit, je vais le demander. Donc j'ai osé lui dire, dis-moi, c'est quoi ce que tu dis là? Il me dit, c'est des poèmes. J'ai dit, des poèmes, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est un mot presque barbare. C'est quoi un poème? Je lui dis, Qasaïd. Je dis, c'est quoi Qasaïd? Il dit, char, la poésie. Je dis, c'est quoi char? Moi, je pensais des cheveux ou des choses comme ça.
Charles.
Oui, Charles. Je dis, c'est quoi, cher Qasaïd, un poème, c'est quoi? Je lui dis, mais est-ce que tu trouves ça très beau? Et est-ce que moi, je peux faire la même chose? Mais il me dit, bien sûr, toute personne peut écrire des poèmes. Le moment où il a des sentiments. Est-ce que tu as des sentiments? Je dis, oui, voilà, j'en ai plein. Il me dit, donc tu peux. Si tu as des sentiments, vas-y, tu peux écrire. Tu sais écrire, je dis un peu. Je dis, vas-y. J'ai passé toute la nuit, imagine moi, soif savoir, soif donner aussi. J'ai tellement de choses en moi, depuis l'âge de 7 ans, né dans cette famille, cette misère, de me terminer en prison pour rien, je dis, je faisais des choses de bien moi. J'ai pas pensé que c'était voyou de libérer des pauvres enfants bergers. Et du coup j'écris toute la nuit, le lendemain je lui ai donné. Il l'a lu et il l'a déchiré. Il me dit, ça va pas, t'imagines, t'as perdu la tête. Il ne faut jamais écrire ce genre de choses. va savoir qu'est-ce que j'ai écrit, vu que ça terminait à la poubelle. Mais peut-être j'ai compris à ce moment-là.
C'est le contenu, peut-être, qu'il a...
À ce moment, peut-être, c'est ça. Là, c'est intéressant. C'est-à-dire, à ce moment-là, peut-être, moi, j'ai découvert, en fait, par l'écriture, on peut faire très, très mal. Écrire, c'est une responsabilité. Écrire, c'est un engagement, en fait. Et, hein, c'est ça.
Et la personne qui vous a dit de ne pas écrire cela, c'est par peur, par...
Je pense qu'il voulait me sauver.
Ouais.
Je pense qu'il dit que c'est un type... C'est un jeune qui n'est pas conscient. Et il dit des choses... En fait, c'est révolté. J'étais révolté, donc, mais en prison. Donc, il dit... Non, je pense que c'est un homme qui a voulu sauver ma vie, certainement.
Et il y avait des différents courants politiques. Il y avait des communistes, des chiites...
J'étais avec des communistes, des chiites, de nationalistes nasserites à l'époque, parti d'Abd Nasser. Donc, c'était une prison qui groupait des chiites, des communistes, beaucoup, bien entendu. Qui c'est avec eux, d'ailleurs, j'ai appris. J'ai appris à écrire, j'ai appris à comprendre un peu la politique. C'est pendant 6 mois à 8 mois de prison, oui, c'était mon école à moi, apprendre. Et comme j'avais soif d'apprendre, c'était tombé bien. Voilà, donc après cette manière de voir les choses, libéré, je me suis trouvé à Bagdad où ma famille ne voulait pas de moi. Parce que toute personne qui est prisonnier, entre parenthèses politique, entre parenthèses pour eux, c'est considéré comme sioniste, un traître, travaille avec Israël. C'est le monde arabe. Hein,
les accusations du monde.
Pour les gens qui m'écoutent, c'est en général, c'est comme ça qu'on
mais,
fait.
Mais en plus, il y avait des menaces sérieuses.
Il y a des menaces sérieuses. Oui, parce que
les bassistes.
Les partis basses, donc, ils étaient également des milices. Imaginez aujourd'hui à Damas. Ou quelqu'un qui il y a une révolte contre le régime de Bachar, ben on va dire c'est un sioniste, un salafiste, c'est un terroriste, c'est comme ça qu'on fait. Et ben tous les régimes du monde arabe, ils ont fait comme ça. Et qu'aujourd'hui ça continue devant tout le monde. En tout cas, le régime de l'Assad, il fait devant tout le monde comme ça. Hein. Donc en Irak, c'était pareil. C'est-à-dire que moi, ma révolte à moi, j'étais sioniste ou j'étais contre mon propre pays. Voilà. Bon, je me suis trouvé donc à Bagdad. Ou à Bagdad, mon ami, quand tu jettes une chaussure dans l'air, ça tombe toujours sur une tête d'un poète. Bagdad est débordé de poésie. Hein? On disait à certaines époques, ça c'est un dicton dans le monde arabe, on dit, on écrit en Égypte, on publie à Beyrouth et on lit à Bagdad. Bagdad, c'est ça. Donc je me suis trouvé, moi, dans des cafés de Bagdad, où, comme je disais, des poètes partout. Et là, j'ai découvert Albert Camus. J'ai lisé, j'avalais tout. J'adore, j'ai appris. Alors, je suis allé te dire.
Traduit, il était traduit.
Traduit en arabe, bien entendu. Camus. En général, l'Irak, oui, comme je dis, écrit en Égypte, traduit, etc. À Beyrouth, lié à Bagdad, ça veut dire que toute l'écriture nous venait en arabe. Peut-être mal traduit, mais ça, c'est une autre affaire. En tout cas, moi, j'ai découvert Camus. Et c'était l'auteur, Julius Sartre, etc. Mais c'était beaucoup plus lui. Pas Rimbaud, pas Baudelaire, que j'aime beaucoup, bien entendu. Mais c'était Camus. C'est la pensée qui m'intéressait. Donc, j'ai découvert tout. Et que c'est le moment...
C'est le déclic, peut-être.
Oui, bien. Mais là, c'est pourquoi le choix de la France, après.
Voilà.
Donc, à Bagdad, quand tu es prisonnier politique libéré, etc., tu es toujours sur une liste noire. Hein? Parce qu'il faut qu'on te descende, toi. Tu as pensé qu'on t'a libéré. Ça y est, ça bourre l'image, hein. C'est le superflu, ça. Mais une fois que tu dors, il faut qu'on finisse avec toi. Parce que tu peux toujours revenir et faire la politique contre le régime.
La prison continue à l'extérieur.
Mais bien entendu. Bien entendu, parce que je ne pourrais pas travailler, vu que c'était marqué ma livrée de militaire, que j'étais prisonnier. Ils ne disent pas politique. Selon l'article, machin, hein, tu es prisonnier. Et tous les patronats, ils savent parfaitement bien ça. Celui-là, il ne faut pas qu'il travaille dans mon établissement. Et comme je ne savais rien faire, donc c'était facile. Donc je fais des petits boulots. Liste noire, il faut partir. Des amis me disent, Salah, quitte l'Irak, pas aller de Bagdad, etc. Quitte l'Irak, ils vont te descendre.
La menace est réelle.
Oui, où je vais? Où je peux y aller, moi? Rien, pas de diplôme, pas rien. Ma famille ne veut pas. J'écris des poèmes, mon Dieu, ça ne fait pas grand-chose. Pour aller vivre ailleurs. Et c'était, j'ai découvert Camus, dans ma petite chambre, Camus. J'ai dit, attends, je lis un auteur, j'adore. Alors je suis allé chercher. Qui est cet auteur? Il habite où? C'est-à-dire que quand tu lis parfois un auteur, tu ne cherches pas son origine. Tu t'en fous totalement. Tu veux la penser, au fait. Et là, je me suis penché sur Camus, né en Algérie. Oh non, quand même, je ne veux pas aller en Algérie. Et moi, je dis, ben non, mais je connais un peu le monde arabe, je dis un peu politiquement, avec tout l'amour pour l'Algérie. Mais je veux dire, je voulais me sauver définitivement de ce monde qui présonne, au fait. Hein. Et donc, la France. C'était, j'ai dit, ah tiens, s'il y a un homme qui écrit des choses aussi magnifiques, certainement son pays aussi. Et je ne me suis pas trompé. Ça fait 38 ans. Oui, j'adore la France et je ne me suis pas trompé dans mon choix.
J'adore. C'est formidable que de voir comment la décision s'est faite par rapport à la France à travers une pensée, écrivain. Voilà. Parce que souvent, on nous bassine l'immigration pour économie.
Je ne connaissais rien de la France. Sincèrement, voilà, je ne connais ni la Tour Eiffel, ni le musée. Mais j'étais pas intellectuel. Je lisais des livres.
Non, mais il faut dire quand même, il y a des milliers de gens qui sont venus en France ou pas, hein.
Oui,
qui ont ce lien plus intellectuel de penser les Lumières, les écrivains et tout ça, des Camus, des Sartre et compagnie. Qu'il y a ce lien-là qui est important.
Nous, on était, l'Irak était quand même sous la preinte de l'Angleterre, longtemps. Hein. Donc, les Irakiens en général choisissent à Londres.
Logiquement, vous devriez être en Angleterre.
À Londres, hein, bien entendu. Et du coup, choisir la France, c'était quelque chose assez rare. Et les bourgeois irakiens, éventuellement, qui viennent en France, mais pas les pauvres.
Alors, Salah, avant de faire la traversée, je vous invite à nous lire un poème de transition avant d'arriver en France. Je vous laisse le choix.
Ben, je vais lire un petit poème. Hein, je vais lire un... En fait, allez. Je vais lire un poème où j'ai écrit, en France. Je vais lire en arabe et en français. Et la suite, je lirai un poème après 30 ans d'exil, quand j'ai vu ma mère plus tard. في نهار ما سأهب عليكم مثل زخة مطر لا تبخلوا بفتح النافذة فأنا أسراب من القبرات تحط على سطح الدار وفي عز الضحى سأقص عليكم مآسي المنفى ومن ثم آكل أجنحتي لكي لا أطير L'étranger. Un jour je viendrai, comme une averse. Je suis une nuée d'alouettes qui se pose sur le toit de votre maison. Ne soyez pas avare, ouvrez la fenêtre, car dans les hauteurs de l'aube, je vous conterai le drame de l'exil. Puis, je mangerai mes ailes pour ne plus voler. Et comme je disais le poème que j'ai écrit pour ma mère après 30 ans d'exil. تغير عنوان الدار انتقل صورتي من مكانها الطاولة مطوية خلف الباب وكرسي أبي أيضا وحدها السجادة القديمة كانت تزين الأرض أخيرا عثرت عليك في حديقة عارية بشالك الأسود الكبير سارحة الذهن منسجمة في صلواتك العمر محاك على الوجه ظننت إني أضم إلى صدري نخلة تحتضر ولكن بين ذراعي تعرفت على أمي La traduction La maison avait changé d'adresse Ma photo avait changé de place La table avait été pliée derrière la porte La chaise de mon père aussi Seul le vieux tapis fleurissait le sol J'étais trouvé enfin dans un jardin nu, avec ton grand châle noir, l'esprit en dérive, enfilé dans tes prières, l'âge cousu sur le visage. J'ai cru serrer un palmier agonisant, puis dans mes bras, j'ai reconnu ma mère.
Merci Salah. Bon, là on a traversé, hein, donc à travers la poésie, et on est en France.
Oui.
Alors.
Alors, en France.
Mais vous n'avez pas pris, je sais que vous n'avez pas pris un billet d'avion direct.
Non, malheureusement, j'ai
Bagdad, Paris.
J'ai voyagé longtemps dans le train, dans le. Voilà. Oui, non, en France, alors je suis arrivé. En fait, c'est un ami tunisien qui m'a aidé de venir en France. Aujourd'hui, je peux dire son nom, je ne sais pas s'il est vivant ou pas. Il s'appelle Omar Ammar. Il était un étudiant à Bagdad. Je pense qu'il a terminé sa vie en tant que journaliste. Et c'est dans les cafés de Bagdad qu'il a appris mon histoire. Et il m'a aidé, il m'a donné une adresse, hein, en criant en français, avec un ticket de métro. Voilà, l'adresse, c'est quelque chose de vrai. Hein. Il m'a dit, voilà, tu vas là-bas, tu descends, et tu vas à cette adresse-là, tu as le ticket, tu le mets dans la machine. Comme si moi je connais Bagdad, le Paris. Et tu y arrives, et c'est bon, tu dis que j'arrive de ma part, et tout se réglera. J'ai dit d'accord. Alors, on a écrit l'adresse en latin, en français, donc moi je ne comprends pas. Et au fait, on est partis ensemble, on a acheté un petit sac de soldats, et on l'a cousu, l'adresse. Parce que sur frontière, parce que moi j'étais libéré, mais il faut que je quitte l'Irak, il faut que je demande un passeport, etc. J'ai réussi, hein, c'était pas clandestinement, j'ai quitté l'Irak, vu que Saddam n'était pas encore au pouvoir, donc il y avait une possibilité de partir, et j'ai demandé d'aller à Beyrouth. Ils ne donnent pas de visa pour l'Europe à l'époque, c'était interdit. De Beyrouth, enfin, genre, moi je ne suis pas allé à Beyrouth, je voulais faire Damas, la Turquie et la France, en fait. Donc, voilà. Donc j'arrive à Paris, je suis arrivé à Paris, je découvre quelque chose d'extraordinaire. Je suis un bédouin, en fait. Hein. Je suis un véritable bédouin.
Arabien Fibari.
C'est un Irakien sur scène, quoi. J'arrive et je descends dans le métro, voilà. Je vois des gens qui marchent. Je ne sais pas si c'est le métro ou pas, hein, à l'époque, je ne comprenais pas.
Où est-ce qu'ils vont?
Ils vont. Moi, je vois la foule des gens qui marchent, je suis avec eux. Je dis, où il va le fleuve, hein? Je vais avec le fleuve, le haut. Et on descend, et j'attends des bruits. C'est impossible qu'un Irakien reste pour moi. J'ai couru pour sortir, moi. Tu vois, j'ai poussé les foules qui avançaient, moi, je sors. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où on va? Il y a des bruits. Tu vois, les métros à l'époque, c'était des bruits énormes. Et moi, j'avais peur. Alors, j'ai sorti. J'ai dit, non, je ne veux pas. Je ne sais pas où aller là-bas. Je vais être écrasé. Je ne sais pas où ils vont ces gens-là. Hein. C'est toute l'étrangeté de Kafka, tu vois. C'est vraiment le truc Kafka. Hein. J'ai dit, non, je sors. Je suis sorti. J'ai resté dans la gare pendant toute la nuit, je pense. Et le lendemain, avec mon adresse, j'avais les cheveux longs à l'époque. Un manteau de l'armée irakienne que j'éteins en noir parce qu'il était kaki. Donc j'ai pu l'utiliser pour l'hiver. Un SDF aujourd'hui, peut-être on peut l'appeler comme ça la personne. Et j'ai traversé Paris à la recherche d'une adresse où j'ai montré aux passants. J'essaie de dire yes, non. Yes, non. Alors le français il regarde, prend l'adresse. Toujours. Un français, tu lui donnes un papier pour chercher une adresse, il regarde vers le haut. Première chose qu'il fait, quand il a envie de t'aider, il regarde et il lève la tête. J'ai dit, qu'est-ce qu'il regarde là-haut? Et j'ai posé des questions. Alors, une fois, deux, trois, quatre personnes, cinq, tout le temps. J'ai dit, il y a quelque chose à faire là-haut? Parce que nous, on n'a pas ce genre de numéro. Donc, lui, j'ai compris plus tard qu'il cherche une adresse, le nom de la rue et les numéros de l'appartement ou de l'immeuble où tu vas. J'ai passé pratiquement toute une journée, je n'arrive pas. Parce que tu imagines, une adresse, et je n'arrive pas. Alors, je vois que sa main, à droite, à gauche, j'avais peur, je ne sais pas où elle est. Moi, je crains toujours que les bassistes, le régime de Saddam, ils sont également à Paris. Tu vois, c'était inquiet. Hein? J'étais très, très inquiet.
Mais j'y étais, oui.
Aussi. J'ai bien attendu. Sauf que moi, là, j'étais un peu déguisé avec mes soucis, au fait. Hein? Et du coup, j'arrive, j'ai dit, bon, il faut que je trouve, au fait, cette adresse, il faut que je le découvre tout seul. Alors j'ai regardé, donc c'est en français, je comprends rien. Ah tiens, il y a un numéro là. Mais les numéros étaient, tu sais, les chiffres arabes. Mais nous, on utilise les chiffres hindous. Ça se complique ma vie, tu vois. Les chiffres hindous, alors je vois les chiffres arabes, ce que les français utilisent, mais je ne comprends pas. J'ai dit, tiens, au fait, c'est quand même un dessin. C'était 44, j'ai dit les chiffres quand même. Il faut que je trouve 44 à Paris. C'est facile, 44. C'est-à-dire, c'est les dessins. Donc, moi, il faut que je trouve les dessins. Donc, j'ai marché dans les rues. Je dis yes, non, etc. J'arrive. Ah, tiens, il y a le même dessin. Je dis, ça y est.
Est-ce que c'est la bonne rue?
Ah, parce que j'en sais rien, moi. Il y a le dessin, en tout cas, il est là. C'est le même. Je regarde, voilà, j'ai passé 5 minutes pour bien dessiner, c'est la même chose, les chiffres. Enfin, je dis chiffres, mais je ne savais pas. J'ai dit, c'est le même dessin. Je suis rentré. Je monte, il y a quelqu'un qui descend. Je lui montre l'adresse. Il dit, yes. Il regarde. Il me dit, en arabe, oui, c'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit, il y a Omar qui m'a envoyé. Moi, c'était normal, j'ai trouvé l'adresse, tu vois. Alors, les gars, ils m'amènent. Ils me disent, d'accord, monte avec moi. Je vais chercher de cigarettes. Je ne l'ai jamais revu, ce type. Il est parti. Pendant 3 heures après, il y a 3 gaillards tunisiens qui s'embarquent avec des moustaches. En arabe, il me dit, oui, bonjour, monsieur. Comment es-tu venu ici à cette adresse? Plus tard, j'ai découvert que c'est quelqu'un qui était cherché par Bourguiba. C'est-à-dire que les gars que j'ai trouvés, moi, avec mon adresse 44, c'était recherché par l'Interpol. Et moi, j'arrive facilement avec l'adresse. Et du coup, donc, les gars, ils disent, merde, ils connaissent certainement Omar Amar, mais il m'a laissé dans le truc. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce type? Certainement de service de renseignement ou des choses comme ça. Mon histoire est bizarre. Tu vois, comment trouver quelqu'un qui, tout le monde cherche, moi, j'arrive avec un truc par hasard. Oui, ça, c'est la poésie aussi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, ma vie commence comme ça. J'ai resté 3 jours. Ils ont téléphoné. Ils ont découvert qui j'étais. Ils m'ont pris dans le bras, s'excuser. Ils sont partis.
Ils auraient pu même t'engager.
Ben, après.
Un super agent de renseignement. Oui. Non, c'est une plaisanterie, mais bon.
Alors, après, bien entendu, ils m'ont amené. C'est un Français qui m'a aidé, qui s'appelle Alain Artaud. Je ne sais pas où il est aujourd'hui. Il était un pilote d'avion, enfin, un pilote civil. Et je me trouvais avec beaucoup de Tunisiens chez lui. Et lui, vraiment, il m'a beaucoup aidé. Il m'a inscrit à la fac, Paris 8. J'étais inscrit à Paris 8. J'ai l'impression qu'en France, il y a des choses qui étaient préparées pour moi. Je ne me suis vraiment pas trompé. Ce pays des Camis est magnifique. Je trouve à Paris 8 où tu n'as pas de diplôme. Je dis, moi, je n'ai pas de diplôme. Ils m'ont dit, oui, ici, on t'accepte. Waouh! J'ai dit, c'est génial. C'est-à-dire, ils ont fait le 68 pour moi. Ils ont créé toute une université. Pour cela, Alhamdani vient de Bagdad et on l'inscrit, on lui donne une carte séjour et on dit que c'est un étudiant.
C'était en 1975,
ça? 76, j'étais allé. Donc, j'ai passé un an. Et en 76, j'étais allé à la fac Paris 8 où j'étudiais la langue, le théâtre et la philosophie. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, tout. Non, il me dit, il faut que tu choisisses. Tu vois, couscous royal, ça va. Tu choisis une seule chose, calme-toi. Et j'ai dit, moi, j'ai très, très faim pour étudier. Donc, je veux tout. Français, théâtre. Et au fait, j'ai passé donc 75 à Paris. 79, j'étais au Théâtre National, Palais de Chaillot, une pièce de Gilgamesh, où j'ai joué le rôle d'Enkidu dans un nouveau pays de Gilgamesh, qui était le premier texte qui est écrit dans l'histoire, mésopotamien, bien entendu. Et Victor Garcia, qui était un metteur en scène argentin d'origine, décédé aujourd'hui malheureusement, un puissant homme dans le théâtre.
Mais qui vous a beaucoup marqué aussi.
Oui, parce que ça, peut-être c'est comme ça. Mon histoire, il n'est pas simple non plus. Donc, rencontrer un homme comme ça, pour moi, c'est très, très important. Il faut qu'il me dépasse, l'autre. Pour moi, il faut qu'il me dépasse pour qu'il y aura un échange artistique ou culturel, bien entendu. Donc, moi, j'étais émerveillé par cette personne. Pas par sa méthode, mais par sa manière de faire. Et moi, j'ai joué un rôle d'Enkidu. Et le lendemain, pratiquement en 79, il y a une grande page de partie basse à Thawra, la révolution, où j'avais une première page d'un Irakien au Palais de Chaillot. J'étais sur un taureau céleste. C'est l'image.
Ah oui,
il savait pas que j'étais... C'était l'histoire, tu vois. Et ma famille, ils ont vu donc les journaux à Bagdad où il y a ma photo. Ils ont dit, mais ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Ils comprenaient pas. Donc il y avait des contacts à l'époque où je dis, non, vous inquiétez pas, eux ils le prennent parce que je suis irakien au Théâtre National en France. S'ils savaient qui j'étais, peut-être ils feront pas. Ils savaient pas. Donc, enfin, certainement le service de renseignement de Saddam, mais si, enfin, du parti basse à l'époque, à Paris, où j'ai terminé dans leurs journaux. Oui, c'est le.
C'est le théâtre avec Victor Garcia et l'autre, parce que vous
avec êtes... Claude Confortès, j'ai travaillé sur une pièce de Copy, qui est également argentin, qui est très connu quand même dans l'écriture. On a joué une pièce de théâtre qui s'appelle ou qui s'appelait la Tour de la Défense. C'était mise en scène par Claude Confortès, un grand homme de théâtre, avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Clementi. J'ai oublié d'autres, en tout cas Jean-Pierre Calfon, des acteurs très très connus. Et j'ai fait également une tournée avec Al Hakawati, théâtre de Jérusalem.
Vous avez fait aussi du cinéma.
Fait du cinéma, j'ai travaillé, oui, j'ai fait quelques films, de petits rôles bien entendu. J'ai fait la télé aussi. Enfin, donc après ma vie, au fait, j'ai vécu pendant 15 ans à Paris après, en tant qu'intermittent de spectacle. Donc je vivais de ça, au fait. Jusqu'à la fin où j'ai arrêté d'être artiste, parce qu'au fait, j'étais toujours chômeur. Genre, tu es acteur, etc. Et au fait, j'étais chômeur. J'ai travaillé une fois ou deux dans l'année, et le reste, j'ai retapé je fais de la peinture ou des parquets pour les gens. Donc, j'étais ouvrier toute ma vie, quoi.
Vous avez eu un passage au Kremlin-Bicêtre
Oui. J'ai travaillé.
C'est un hôpital.
C'est l'hôpital de Bicêtre, oui, au CHU Bicêtre, où je suis allé m'engager en 91, je pense, à peu près, 90-91, où j'ai laissé tomber pratiquement d'être acteur, quand même, référence. J'ai travaillé dans de plus grands théâtres, tu vois. Et je suis allé m'engager en tant que brancardier, parce qu'à l'époque, mon ex-femme, elle faisait des études d'infirmière par correspondance, et on avait besoin de l'argent parce que j'ai un enfant. Et donc, je suis allé m'engager d'abord brancardier au CHU Bicêtre. Et le directeur de l'hôpital à l'époque, il a découvert que j'étais écrivain et il m'a vu à la télé dans une série qui s'appelle Le Destin de Docteur Calvé, une série sur TF1. Et lui, le matin, il s'est rasé, il m'a vu à la télé. Alors, il ne comprenait pas, il sait que j'étais brancardier. Donc, il m'a convoqué dans son bureau à l'époque. Il me dit, monsieur El Hamdani, qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, monsieur le directeur, je travaille. Il me dit, non, quand même, qu'est-ce que vous faites à la télé? J'ai dit, j'étais comédien, donc j'ai continué de temps en temps un peu de cachet, quoi, pour vivre, mais pas. Il me dit, vous êtes écrivain aussi, etc. Et donc, il a, avec le représentant de personnel et le directeur, ils m'ont accordé d'être responsable de la bibliothèque du personnel.
Ce que vous appelez plutôt la librairie.
Je l'appelais la librairie
parce que... j'ai vu ça sur un film, Itinéraire d'un poète.
Oui.
La disposition des livres. Oui. Vous avez mis une exigence, que ce ne soit pas comme...
Disons que je n'aime pas trop la bibliothèque, voilà. Parce qu'on est très silencieux. On dirait qu'on rentre dans un... dans un mausolée ou dans la mosquée ou dans une synagogue ou dans une église, tout un silence, etc. Moi, je n'aime pas trop ce silence de ce que la religion parfois impose à l'être humain. Et donc, je dis non, moi, je ne veux pas. Les gens, s'ils rentrent, ils voient tous les livres. Ils m'ont dit, comment ça? Je dis, c'est très simple, vous étalez les livres. Il y a un certain ordre, bien entendu, mais j'en ai à peu près 300 livres étalés. C'est allé comme ça, sur le comptoir, etc. Et j'adore ça, parce que ça fait comme un chant de mots. Donc les gens, ils regardent, et j'aime bien. Et là, du coup, quelqu'un qui veut lire sur l'infirmière, il trouve L'étranger de Camus, ou il trouve Jean Genet, ou il trouve Shakespeare, ou il trouve Molière, ou il trouve le Coran, ou il trouve la Bible, ou il trouve je ne sais pas quoi. Je veux dire, j'aime bien ça. La culture peut passer également visuellement. J'avais raison, parce que les gens, parfois, ils rentrent pour un livre, ils sortent avec 5. Parce que j'explique, je suis la personne qui rentre. Voilà, c'était là. Donc aujourd'hui, je suis retraité, bien entendu, parce que je suis très vieux.
Ah bon?
Oui. Les gens attendent ma voix,
ils disent
qu'elle
est
très jeune.
On peut pas montrer l'image.
Non, c'est dommage. Hein. Je suis très moche et vieux. Non, je rigole. Voilà, donc c'est la bibliothèque. Pendant pratiquement, j'ai passé 20 ans de ma vie au CHU de Bicêtre, je suis retraité aujourd'hui.
Donc, comédien, poète, acteur, etc.
Et brancardier.
Mais aussi opposant. aussi opposant,
oui, surtout
opposant au régime de Saddam. Comment ça se passait, cette opposition? Parce qu'il y avait quand même des moments, des passages assez durs, des altercations.
Oui, parce qu'on était.
Notamment quand il y avait la guerre, être contre la guerre tout en étant contre la dictature.
C'est une position de juste, comme je disais tout à l'heure. Je pense que j'avais raison d'être à la fois contre Bush et à la fois contre Saddam. Je trouve ça scandaleux, jusqu'à aujourd'hui, de faire le choix entre les morts. Tu vois, les gens qui choisissent entre les cadavres. Comme si, s'il y a un mort palestinien, c'est grave, un mort des juifs, c'est pas grave. Je trouve ça, c'est scandaleux pour moi. Tous les morts vaut la même valeur. C'est des morts. Et donc, pour moi, c'était tout à fait normal que je me pose toute ma force contre le régime de Saddam Hussein et contre l'intervention américaine en Irak, parce que j'étais contre cette intervention, bien entendu.
Et Salah, vous êtes revenu en Irak en 2004, pressé oui. sûrement par votre maman. Vous pouvez nous en parler de ce retour, parce que vous êtes à un moment où vous disiez, là je suis exilé, je suis à Paris, mais il y a une autre contrainte, c'est que je sais que je ne peux pas revenir dans mon pays. Mais ça, c'était il y a des années de ça. En 2004, il y avait cette occasion.
Oui, en 2000, j'ai décidé de retourner en Irak parce qu'en fait, c'était assez compliqué, parce que là, j'ai plus de contact avec ma famille à l'époque. Je suis exilé 30 ans. Et pendant 15 ans, je ne donne pas de nouvelles du tout. Parce qu'à l'époque, le régime de Saddam Hussein prend les gens comme otages. Il prend ta famille. C'est-à-dire, quand tu sais que tu milites contre lui, ils prennent ta famille. Et ils te reçoivent des informations que ta famille est sous la torture. Quoi. Il faut que tu t'arrêtes de militer contre le régime. Donc, je n'ai pas donné de nouvelles. Et après la chute de Saddam et l'occupation de l'Irak, quand même, c'est une occupation. J'ai téléphoné à ma mère. 2004. La chute de Saddam, 2003. J'ai laissé un an passer. Je téléphone à ma mère. Téléphone sonne, toujours le même numéro de téléphone. Allô? Oui? Qui est l'appareil? C'est moi, Salah, maman. Ah, Salah? Attends, je te passe ta sœur. Ma mère, elle ne veut pas me parler. Ma sœur, elle prend le téléphone. Oui, t'as vu, non, c'est les cochons qui rentrent en Irak, l'occupation américaine, les chrétiens, le tabac, les juifs qui viennent chez nous. C'est ça que tu reçois après toutes ces années, toutes tes luttes. J'ai dit à ma sœur, hey, calme-toi, moi j'ai 4 cochons ici. J'en ai 4 cochons. Je suis marié avec une Française et j'en ai 4 cochons d'elle. On a des cochons. Moi aussi, j'ai des cochons. Qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? Et voilà, j'ai dit comme ça. Elle m'a dit, comment ça? Je dis, ben, tu dis, les chrétiens, ben, je suis marié avec une chrétienne, moi, après tout, même si elle est athée, mais elle est chrétienne d'origine. Donc, tu t'arrêtes avec ça, les cochons, les machins, chaque chose à son temps. Bon, ben, au revoir. Voilà. 30 ans après, c'est comme ça, on t'accueille. Tu raccroches. J'avais un frère qui vit en Libye à l'époque. J'ai lui écrit une lettre d'insulte. Et j'ai dit, voilà, tu amènes ces 10 pages, tu leur donnes. Alors lui est scandalisé, mon frère, il a dit, ça ne va pas, ils n'ont pas compris. Alors il retéléphone. 2 mois après, le téléphone sonne chez moi, l'après-midi, je décroche. Allô? Oui, Salah? Oui, c'est ta mère au téléphone. Bon, avant tu disais Saddam, maintenant Saddam n'est plus. C'est quoi qui t'empêche de venir me voir? Je dis rien, maman. Tu me donnes un mois, je serai auprès de toi. Au revoir. C'est parti. La vie, c'est comme ça. Hein?
Et oui, et puis des retrouvailles, j'imagine.
C'est parti, mon ami, c'était énorme. Donc, je me suis préparé, je n'ai pas d'argent, donc il faut trouver l'argent, il faut trouver le moyen d'y aller. Là-bas, il y a des attentats en Irak, il y avait quelque chose de catastrophique. À l'époque 2004, il y avait toutes les Fallujah, il y avait toutes les salafistes qui venaient de partout, qui tuaient les chiites. Donc, c'était compliqué. Et les frontières. Donc, je suis passé par la Syrie rapidement. Je suis passé par la Syrie parce que je n'avais pas d'autre moyen de c'est les frontières. Et aux frontières, je suis passé en Irak clandestinement. Clandestinement parce que les Américains bloquaient les frontières. Et les passeurs, c'était des bassistes. Moi, c'est les bassistes qui m'ouvrent passer. Je le paye, ils te passent. C'est la nuit, frontière, le Kamashli, il arrive, tac, tac, la voiture sur la vitre. Alors, vous voulez passer en Irak? Oui, monsieur. Préparez $50. Par voiture. Tous se sont cagoulés. Hein? Je sais que c'est des bassistes, moi. Mais il faut que je voie ma mère. J'ai payé, on a payé, on est passé dans le noir, hop. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Retour à Bagdad, ou édition Le Point sur les I. Ça, si vous le trouvez, ça s'appelle Le Retour à Bagdad. J'explique tout ça. Donc, voilà, rentrer en Irak clandestinement. S'il m'attrapait les bases, il serait mort déjà, moi, parce qu'il savait que j'étais opposé au régime. Et donc, ma mère, donc, je l'ai vue. Et je t'ai dit, l'image, la première image, quand je suis venu dans un taxi voir ma famille, je ne connaissais pas la rue ni où ils habitent.
Tout a changé.
Rien, rien, j'ai rien reconnu de l'Irak. Rien, absolument, Bagdad, rien. J'arrive, il y a une porte qui s'ouvre, et je vois une vingtaine de personnes qui couraient vers moi. J'expliquais, j'ai dit, c'est comme si le feu était dans leurs vêtements. Comme ça, ils voulaient venir vers moi. J'ai dit, s'ils m'attrapent, ils vont me tuer par leur tendresse. C'est ça, comme ça, j'explique. Par ma mère, si elle me prend, elle va me tuer, comme ça, qu'elle m'aime. Donc c'était énorme, des gens qui prennent temps, c'est énorme. Et donc voilà, c'est ça. J'ai rien reconnu à Bagdad, j'ai resté chez moi avec ma famille. J'ai pas... Aujourd'hui, bien entendu, à l'époque, j'avais un ami ministre de la Culture, c'était un camarade. J'ai rien voulu, moi, en fait.
Et oui, quand on quitte, les images qu'on laisse derrière soi, elles restent figées, on exile souvent. Quoi.
Oui, c'est vrai, t'as raison, parce que c'est vrai que l'image... Tu sais, pour un exilé, surtout aussi longtemps, 30 ans, c'est beaucoup, ça veut dire qu'en fait, il retourne dans une image qui était fixe, ce que j'expliquais dans le film. En fait, on parle de ce film, c'est un film qui s'appelle Bagdad-Paris, Bagdad-Paris, itinéraire d'un poète, d'Emmanuel Lagrange. C'est un livre qu'on peut le trouver sur Internet.
C'est un film, un très beau voilà, documentaire.
C'est un film documentaire de 55 minutes où j'expliquais qu'au fait, pour moi, c'était de retourner dans une image qui était fixe. Et une fois que je suis rentré dedans, l'image commence à bouger. Mais il bougeait avec des choses que je ne connaissais absolument pas. C'est terrible.
Mais ça, là, j'aurais dû prévoir 4 heures avec toi parce que, on va se quitter sur Bagdad, mon amour.
D'accord.
À toi.
Donc, c'est un long poème, hein, mais bon. Tu n'as à te crucifier ni au bord de la page d'une histoire qui n'est pas tienne, ni au rythme de mort qui couvre tes fluos, car il n'y aura nulle part d'écrit pour soulager ta douleur. Tu n'as pas à te crucifier aux rives de ruisseaux qui saignent ton corps quand le frat essuie le secret de son âme à la naissance d'une nouvelle défaite. Je le sais, aucune blessure ne mérite une guerre. Tu n'as pas à te crucifier à la tombée de la nuit alors que tu n'as pas fermé tes prières sur le corps du palmier, car il n'existe pas d'assassin honorable. Tu n'as pas à te crucifier pour la cendre des calamités, pour le tombeau de tes dieux, ni pour la croyance d'une humanité moribonde. Bagdad, mon amour, ni fils, ni père, ni dieu, aucun prophète couronné par l'Église ne sauvera ton âme, ni celui de la Mecque, ni celui de ceux qui refusent le partage de ce levier en Palestine. Voilà mon calepin sur la guerre, les années d'exil pliées dans une valise, trop longtemps abandonnée aux rêves de condamnés. Voilà ma part de victime, ma part de lune, ma récolte de néant, ma part de poussière, de mots et d'écrits. Voilà mon malheur, comme une virgule verrouillant un trait d'encre. Bagdad, mon amour, j'étais accroupi dans le coin de la page, à l'abri des jours arides, loin de torrents de sang qui emporte le nom de fusillé avec le silence des hommes. Bagdad, mon amour, assis comme un bédouin dans un mirage, allongé sur mes rivages, je chérissais mon propre linceul, loin de la croix, de la paume de Fatma et de l'étoile de David, loin de leurs livres, de leurs guerres, errant dans les sables de dunes, de la steppe à la ville, je traîne mon corps de saison en saison, je te tremballe du canapé au miroir, de ma chambre à la rue, entre mon écriture et ma solitude, à l'abri de leur cimetière, de leur martyr, de leur morgue. Bagdad, mon amour, tu n'as pas à grelotter au seuil de ces débris de jour. Une civilisation n'est dressée pour tuer, à violer ta virginité. Bagdad, ville à jamais insoumise à son bourreau, tu n'as pas à gémir à la seule révélation de cette hégémonie. Ceux qui s'agitent autour de ton corps à l'agonie, ses libérateurs sont ses complices. Bagdad, ma blessure, mon père l'ouvrier est mort sans connaître la joie. Ma mère a égaré sa jeunesse dans les miroirs. Il est seul témoin de mon premier chagrin sur ta poitrine. Il souffle de sable, le ciel étoilé et les regards de Dieu sous l'appel de la prière. Madinat al-Salam, cité de la paix, amour dans l'âme de l'écriture. J'aurais tant voulu aujourd'hui que l'homme n'ait jamais découvert le feu. Il est maudit d'avancer ainsi dans son propre vacarme. Cette terre qui m'a fait naître, aujourd'hui mise à mort. Ô mère, je veux retourner dans ta chair pour écouter les battements de ton âme, pour me désaltérer au balbutiement de ton souffle.
Merci Salah. Ainsi se termine ce chantier de la mémoire.